Isabelle Facon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des meilleures spécialistes de l'armée russe. Dans la nouvelle armée russe, vous remontez au début de la décennie 2000, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Très vite, l'urgence qui s'impose à lui est celle de moderniser l'armée. Vous écrivez « Urgence de réparer une armée sortie exsangue de la dislocation de l'URSS ». Et puis, il fallait aussi ressouder les liens entre les militaires et le pouvoir politique. Au regard de ce que l'on a pu savoir de cette modernisation, des restructurations entreprise, qu'est-ce qui en fait vous a le plus surpris dans la première partie de la campagne de l'armée russe à partir du 24 février dernier en Ukraine?
Finalement, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas tellement sur les capacités opérationnelles, parce qu'on pouvait présumer qu'il y avait quelques faiblesses dans cette armée qui s'est effectivement réformée, restructurée, mais depuis assez peu de temps, en partant d'un chantier extrêmement important avec beaucoup de tiroirs à ouvrir et un financement qui était finalement important, mais relatif quand même. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est plutôt les imprudences commises dans le cadre de cette guerre, puisque jusqu'à présent, ce qu'on observait dans les engagements de l'armée sous Poutine, c'était plutôt des engagements dosés, accompagnés d'autres moyens pour influencer une situation sur le terrain. Et là, on n'a pas eu du tout ça. On a eu une intervention calibrée sur des postulats erronés. Et évidemment, ça pèse sur la performance opérationnelle des troupes sur le terrain.
Et alors, parmi les faiblesses, on a pointé depuis le 24 février un manque de coordination interarmes. On a donc appris il y a quelques jours la récente nomination du général Dvornikov. Est-ce que c'est une réponse à cette faiblesse identifiée?
Alors, je pense que c'est plutôt une réponse au fait qu'on va changer finalement d'étape dans cette guerre. Vous avez vu que les troupes russes se sont retirées de Kiev, du nord du pays, et on annonce une reconcentration des opérations sur le Donbass et sur le sud du pays. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes de coordination qui étaient liés aussi au fait que longtemps, il y a eu quatre fronts différents, pas beaucoup de cohérence dans l'opération telle qu'elle a été menée. Et donc la nomination de quelqu'un qui a commandé en fait les opérations en Syrie, qui sont plutôt considérées comme un succès pour l'armée russe, c'est plutôt l'évocation d'un changement de portage et d'un effort de plus grande coordination et de plus grande cohérence dans l'orchestration des choses sur le terrain.
Comme vous parlez de la Syrie, comment on peut expliquer ce qu'on avait pu comprendre des forces de l'armée russe en Syrie et ce que l'on voit aujourd'hui?
Ce sont des engagements qui sont très différents, c'est-à-dire que dans le cas de la Syrie, la Russie a déployé le moins d'hommes possible au sol et elle a porté surtout un soutien aérien à des forces locales, les forces syriennes, les milices pro-iraniennes qui sont sur le terrain. Et puis évidemment, il y avait des Wagner, mais ce n'est pas l'armée russe régulière en tant que telle. Il y a eu plutôt un engagement dosé sur le plan des hommes de l'armée russe déployés sur le terrain.
Alors vous nous parliez donc de cette nouvelle phase qui va être centrée sur le Donbass. Après ces 7 semaines de guerre, que sait-on de l'état de l'armée russe, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des équipements?
Au niveau des hommes, on sait qu'il y a un grand problème de personnel sur le terrain, puisqu'on essaye de faire venir des gens de Syrie, on dégarnit les bases que la Russie a dans le Caucase, on fait venir des gens de l'Extrême-Orient. Donc tout ça, ça traduit le fait qu'il y a eu des pertes, même si c'est extrêmement difficile de les évaluer, sûrement plus que ce que disent les Russes, probablement moins que ce que disent les Ukrainiens, mais en tout cas des pertes importantes. Les unités qui viennent d'être retirées du Nord et de Kiev, on peut supposer qu'il y a une partie d'entre elles qui ne sont pas immédiatement remobilisables sur le front du Donbass. Donc vraiment une difficulté au niveau des effectifs, mais Vladimir Poutine visiblement ne veut pas faire appel aux conscrits. C'est un petit peu une partie d'un contrat social qu'il a avec la société. Et puis ça voudrait dire aussi que finalement il renonce à l'idée d'une opération militaire spéciale.
On ne peut plus être dans une opération spéciale.
Donc être peut-être plus restreinte, plus chirurgicale. Et donc ça irait à l'encontre de ce narratif qui est le leur depuis le début. Donc voilà, et sur les équipements, là, c'est beaucoup plus difficile de savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau logistique, les opérations dans le Donbass, la logistique est plus proche quand même en termes géographiques. On est plus proche de la Russie. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir des choses. J'imagine qu'ils ont encore des réserves en équipement, mais il y a un taux d'attrition très important.
Alors, revenons au début de la décennie 2000, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir. L'armée russe est alors marquée par 10 à 15 années de déliquescence post-dislocation de l'URSS. Vladimir Poutine se rend rend compte dès 2000 que pour la deuxième guerre en Tchétchénie, il n'a pas une unité qui soit prête à combattre. Certains experts ont parlé d'une armée russe en haillons. À quoi ressemblait cette armée russe au début des années 2000?
Alors c'était une armée russe qui n'avait pas beaucoup évolué dans ses structures, mais qui s'était aussi vraiment contractée finalement dans ses effectifs.
Parce qu'il y avait des baisses de budget.
Absolument, oui, dans les années 90. On parle souvent des commandes d'armement chinoises et indiennes de l'époque comme les planches de salut finalement pour l'industrie d'armement, puisqu'il n'y avait pas de commandes de nouvel équipement pour les forces russes. Et parfois, les soldes n'étaient pas payés pendant plusieurs mois. On avait eu ces récits de coupures d'électricité, y compris dans les unités des forces de missiles stratégiques. Donc, il y avait beaucoup d'anecdotes qui témoignaient vraiment d'un appauvrissement, en fait, des forces armées, mais aussi des forces armées qui en voulaient, en quelque part, à leur commandant en chef, c'est-à-dire Boris Eltsine, parce que Boris Eltsine, en fait, était dans une relation un peu défiante vis-à-vis de l'armée. Il estimait que l'armée avait été l'enfant chéri du régime soviétique, qu'elle était en partie responsable de la chute de l'URSS, du fait de la dépense qu'elle occasionnait et donc le poids qu'elle représentait pour l'économie soviétique. Et donc l'idée pour lui, c'est de remettre un petit peu l'armée à sa place, à sa juste place, en essayant de jouer aussi sur les rivalités avec d'autres services. On parle des siloviki en Russie, donc les structures de force, notamment le ministère de l'Intérieur, les services de sécurité. Et Eltsine essayait de jouer sur les rivalités entre tout cela. Et l'armée n'était pas toujours gagnante, en fait, dans les arbitrages entre ces différentes structures de force. Et donc, tout ça produit une armée russe qui, finalement, a gardé les structures de l'armée soviétique, mais avec beaucoup moins d'effectifs, beaucoup moins bien entraînée.
Cette modernisation voulue par Vladimir Poutine va d'abord être confiée en 2007 à Anatoly Serdyukov. C'est le ministre de la Défense, mais alors il est totalement étranger au monde militaire. C'est un choix étonnant.
C'est un choix étonnant, mais qui voulait dire beaucoup de choses. Donc effectivement, il a un profil singulier puisqu'il a fait l'essentiel de sa carrière dans l'industrie du meuble. Et son poste précédent, celui de ministre de la Défense, c'était chef de l'administration fiscale. Et le message était à l'époque assez clair. Il y avait deux messages, en fait. Le premier, c'est moi, Vladimir Poutine, je veux mettre plus d'argent dans les forces armées, mais j'aimerais bien qu'il soit bien dépensé. Et comme son précédent ministre de la Défense, Sergueï Ivanov, lui avait dit qu'à peu près 40% des fonds consacrés au système militaire étaient mangés par la corruption. Bon, l'idée, c'était, voilà, ce ministre civil, et donc il va mettre de l'ordre dans les finances et l'argent que je vais dépenser, qui sera plus important pour les forces, eh bien, il sera utilisé à peu près à bon escient. Alors, on a vu depuis que c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'était quand même l'objectif. Et le deuxième objectif, c'était aussi d'avoir à la tête du ministère quelqu'un qui est capable de résister finalement à la résistance des militaires, des officiers qui n'étaient pas forcément très enclins à une réforme en profondeur des structures.
Et alors que l'armée, vous le dites, sera réticente, voire résistante à cette modernisation, ce qui va avoir un effet déclencheur chez les militaires, c'est la guerre en Géorgie en 2008. Elle est présentée comme une victoire pour l'armée russe. Elle a duré 5 jours. Mais en même temps, elle a été révélatrice de grandes failles au niveau organisation. Et c'est ça qui va faire, vous l'expliquez dans votre livre, basculer les militaires russes vers l'idée, effectivement, que la modernisation est incontournable.
Alors, qui va faire basculer une partie des militaires russes vers cette idée-là, et puis l'autre partie, qui va rester réticente, on va pouvoir utiliser cette contre-performance pour justifier une partie des limogeages, en tout cas les fermetures de postes d'officiers supérieurs qui vont suivre.
Parce qu'il y avait énormément d'officiers.
Absolument, ça fait partie des éléments les plus impopulaires au sein de l'armée de cette réforme. C'est Poutine d'ailleurs qui l'a dit, on en est arrivé à un stade où finalement l'armée bientôt ne pourra plus exister en tant qu'organisme fonctionnel. Il a carrément employé ces termes-là en substance. Et donc ça va permettre de justifier, d'enclencher plus volontairement sur la notion de vraie restructuration des forces.
Anatoly Serdyukov reste en place jusqu'en 2012 et en 2012 il est remplacé par Sergueï Shoigu. Et Sergueï Shoigu, c'est donc toujours l'actuel ministre de la Défense russe. Donc ça fait 10 ans qu'il participe aussi à la modernisation de l'armée russe. Est-ce que Sergueï Shoigu a une certaine part de responsabilité dans ses choix, dans les difficultés que l'armée russe rencontre actuellement en Ukraine?
Alors, on pourrait déjà se poser la question de sa responsabilité dans la décision. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il a finalement encouragé Vladimir Poutine? On sait qu'ils sont proches, ils partent parfois en vacances ensemble. On a beaucoup de photos qui en attestent. Donc, on peut se demander s'il a, lui aussi, peut-être intoxiqué le président en lui disant que son armée était puissante, n'avait pas de problème, etc., etc. Est-ce qu'il n'a pas osé lui dire « n'y va pas » ou est-ce qu'il fait partie de ceux qui trouvaient que c'était la bonne chose à faire ? Là, ça, honnêtement, moi, je ne sais pas le dire. En revanche, en termes de réforme, c'est vrai qu'il est revenu sur un certain nombre de choses qu'avait mis en place Serdioukov. C'est sous son égide qu'on a réinstauré progressivement des divisions au sein de l'armée russe, alors qu'on les avait supprimées comme unité de base de l'armée de terre dans les années précédentes. Mais voilà, il a voulu tenir compte d'une relation beaucoup plus dégradée avec l'OTAN. Et puis, il s'agissait aussi d'avoir un dispositif renforcé à la frontière avec l'Ukraine. Déjà à l'époque, on n'excluait pas du côté du ministère de la Défense la reprise d'un conflit à plus grande échelle avec l'Ukraine.
Et alors, justement, dans votre livre, vous écrivez « Vladimir Poutine a appuyé son autorité personnelle sur la capacité à engager les armes ». On se dit, quand on lit cette phrase, que la sortie de guerre pourrait être compliquée pour le président russe.
Oui, mais on a le sentiment que pour l'instant, il se prépare plutôt à vendre quelque chose comme une victoire. Alors, il va pas se baser sur les objectifs initiaux, puisque très clairement, ceux-ci ne seront pas remplis. Mais il va pouvoir créer une sorte de cohérence. Tout dépend évidemment de comment se passent les choses dans le Donbass et dans ce qui s'annonce. Mais partons du principe qu'il puisse y réussir. Hein. Si jamais il y réussit, il pourra vendre cela comme une victoire en disant que de toute façon, il a toujours été question de cela, c'est-à-dire sauver finalement le Donbass d'un génocide par un gouvernement soumis à l'influence des néo-nazis et de l'Occident. Donc il pourrait très certainement présenter cela comme une victoire.
Et ce sera donc peut-être le contenu du discours du président russe le 9 mai prochain. Dans votre conclusion de votre livre, cette remarque, la Russie omnibulée par l'OTAN et les États-Unis, au risque de ne pas voir monter des dangers plus prégnants pour la Russie, dans son environnement proche aussi.
Dans son environnement proche, la relation avec la Chine, ça c'est quelque chose pour le plus long terme bien sûr, mais on peut supposer qu'une relation dans laquelle la Chine, qui est déjà un poids lourd, hein, dans ce duo qui est très déséquilibré sur le plan économique, sur le plan démographique, de plus en plus sur le plan militaire, eh bien finalement la Russie risque d'être plus dépendante de ce partenariat avec la Chine. D'ailleurs, certains politologues le disent, si un jour la Chine se trouve dans une situation où elle pourrait profiter d'une faiblesse russe, eh bien peut-être le fera-t-elle, mais on peut le comprendre puisqu'on pourrait avoir ce même type d'attitude, disent ces mêmes politologues. La Chine le ferait par pragmatisme, se saisirait d'opportunités et ils en reviennent finalement à critiquer les autorités du pays qui n'ont pas su moderniser la Russie et ont contribué finalement, ce faisant, à creuser ce fossé avec la Chine.
Il y a effectivement beaucoup de spéculations ces dernières semaines sur la relation Russie-Chine. Pourrait-on envisager des livraisons d'armes par la Chine à la Russie ?
Alors oui, je sais que le renseignement américain a fait fuiter des éléments qui iraient dans ce sens. Moi, ça me paraît assez peu crédible par rapport au conflit actuel. D'abord parce que pour la Russie, déjà, ce serait perdre un peu la face que d'avoir à demander de l'aide militaire à la Chine, alors que ces dernières années, la Russie a plutôt utilisé sa supériorité présumée dans le domaine militaire, et en tout cas son expérience opérationnelle supérieure à celle de l'armée chinoise, pour se rehausser un petit peu dans ce rapport de force déséquilibré dont je parlais. Ensuite, prendre des armes chinoises, ce serait quand même assez compliqué, parce qu'il faudrait apprendre à les utiliser, c'est pas forcément le meilleur contexte pour se faire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces dernières années, on a vu un tout petit renversement de tendance, hein, puisque jusqu'à un passé récent, c'était la Russie qui vendait des armements à la Chine, et de manière assez massive dans les années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Et là, on voit que la Russie s'intéresse à certains systèmes que la Chine produit, qu'elle-même ne produit pas. Elle a certaines faiblesses en matière de drones. Elle pourrait être intéressée par certaines capacités que l'industrie chinoise produit et que la Russie ne produit pas. Donc, sans doute que ces fuites portent plutôt sur des discussions en cours entre Russes et Chinois sur ce genre de choses, plutôt que sur une demande d'aide militaire immédiate pour le conflit en cours de la Russie à la Chine.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à une remarque que vous faites dans votre livre, c'est que les innovations en matière d'équipement, vous dites qu'elles ont souvent été tirées des cartons des bureaux d'études de l'ex-URSS. Il n'y a pas nécessairement eu des innovations majeures depuis...
Et non, et ça, on en revient au problème de la modernisation. Mmh. Ça, c'est un des gros problèmes de la Russie en général, de l'industrie d'armement en particulier. C'est vrai que tous les programmes, ou pratiquement tous les programmes qui sont vraiment des programmes nouveaux de conception russe, eh bien, ils connaissent des retards, des difficultés, etc. Et même les progrès, on voit que la Russie a un petit train d'avance, sans doute, en matière d'hypersonique. Mais même ces programmes-là sont plutôt des programmes qui avaient été engagés dans les années soviétiques, sur lesquels ils arrivent à capitaliser. Et donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Mais ce ne sont pas en soi des nouvelles productions, des nouvelles conceptions, des bureaux d'études russes. Et les programmes vraiment russes, de nouvelles conceptions russes, rencontrent beaucoup de difficultés, à telle enseigne que sur certains de ces programmes, finalement, l'armée décide de ne plus attendre et de plutôt demander des modernisations des matériels existants, plutôt que d'attendre un illusoire avion de cinquième génération qui met quand même beaucoup de temps à sortir des cartons.
Merci beaucoup Isabelle Facon.
Merci à vous.